France Musique.
Bonne émission, Lionel.
Je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade où nous a rejoint ce soir Véronique Gens qui nous parlera de ses visions, enfin ses visions pas les siennes propres, hein, celles qu'elle prête à quelques grandes héroïnes de l'opéra français, plein de choses magnifiques à découvrir sur ce disque qui vient tout juste de paraître. Elle nous dira deux mots sans doute aussi du concert qu'elle donnera vendredi au Théâtre des Bouffes du Nord. Et en face d'elle, eh bien, j'ai invité deux autres personnes qui auront peut-être quelques truc à lui dire, on ne sait jamais, François Joubert-Caillé, qui connaît tellement bien le baroque comme elle, et Noël Burke, qui lui nous causera d'un certain scribe. Plein de choses à découvrir jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
Thank you.
L'air de Geneviève, qui est Geneviève, eh bien c'est un opéra d'Alfred Bruno qui était chanté ici par Véronique Jans, l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Hervé Niquet. Le disque est paru il y a quelques jours sur le label Alpha sous le titre Vision. Bonsoir Véronique Jans.
Bonsoir.
On reviendra sur ces visions parce qu'il y en a quelques-unes en effet là-dedans. Mais enfin, ce qui est important surtout, c'est de dire qu'on a quelques airs chopés dans les opéras français, en gros entre 1850 et 1950, du grand opéra français qu'on connaît très peu, avec des choses vraiment magnifiques. Hein.
Oui, des choses qu'on connaît très peu. C'était ça l'idée, c'était de montrer une fois de plus avec le Palazzetto Bruzane qu'il y a de la musique française. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'est jamais joué, jamais chanté. Et c'est un drame. Et c'est d'ailleurs, on s'est attelé à ce drame pour essayer de ressortir des choses qu'on aimait beaucoup. C'était très difficile de faire un choix parce qu'il y a tellement d'air qui correspondait à mon type de voix en plus. Donc il a fallu vraiment faire un choix. Et donc on s'est donné une sorte de thème, voilà, vision, parce que toutes ces femmes, évidemment, comme d'habitude, elles sont toujours désespérées. C'est un peu ma spécialité. Ouais. Et voilà, et elles ont des visions de choses qui les rendent heureuses ou pas, d'ailleurs, des choses plus pieuses ou des choses qui les mettent dans un état de transe ou dans un état d'extase ou voilà. Enfin, en tout cas, elles s'imaginent dans des situations où elles vivent des situations qui sont différentes de la vie de
oui,
tous les jours.
Voilà. Situations extrêmes, quoi.
Voilà, des situations extrêmes. Voilà, et elles sont dans des états extrêmes aussi, et c'était très intéressant de montrer tout ça. Et c'est vraiment l'opéra français dans toute sa splendeur avec. Avec des drames absolus, ou bien, voilà, et on en parlait tout à l'heure, il y a toujours des cloches qui sonnent pas
oui,
loin.
C'est marrant, ça, oui,
il y a toujours
dans
des cloches.
Beaucoup d'air, oui.
J'aime beaucoup les cloches. Il y a toujours.
C'est Père Véniquet qui les a rajoutées, lui, il est capable.
Non. Il y a toujours un couvent pas loin, parce qu'évidemment, elles sont enfermées dans des couvents, alors qu'elles sont amoureuses, ou voilà, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent dans ces
opéras français. Toujours une bonne raison de mettre les cloches au milieu.
Ah, voilà, j'aime beaucoup les cloches.
Il y a un an qu'il faut dire ici, dès l'ouverture de cette émission à propos de ce disque-là, Cornélie Falcon, qui est en fait grande chanteuse, créatrice, entre autres, des opéras. De Meyerbeer, d'Alévi, de beaucoup d'autres encore, qui a finalement créé une sorte de typologie vocale qui se trouve être un peu la vôtre, ou même complètement la vôtre.
Voilà, exactement, oui, c'est une typologie vocale, comme vous dites, qui est très centrale, en fait, avec une voix qui monte facilement, mais qui reste pas très longtemps là-haut, et pareil, qui descend bien aussi, mais qui reste pas longtemps. C'est vraiment quelque chose entre le soprano et le mezzo-soprano, c'est vraiment très central, et c'est honnêtement, c'est une tessiture dans laquelle je me sens très très confortable. J'ai enfin trouvé ma famille, j'ai enfin trouvé un endroit où je peux placer ma voix de manière confortable et où je peux vraiment chanter voilà, tout ce qu'elle a chanté aussi. Et c'est vraiment un grand confort vocal et encore une fois un grand plaisir d'avoir trouvé une nomenclature, si je puis dire, parce que quand vous êtes entre les deux,
parce que vous avez été longtemps entre les entre
oui, mais oui. Je suis toujours, mais je savais pas comment je m'appelais, voilà, c'est vrai que en France et même ailleurs, souvent quand on distribue les opéras, on aime bien savoir qu'un tel est soprano, un tel est machin, un tel est mezzo, voilà, moi je suis vraiment entre les deux, comme cette fameuse Cornélie Falcon qui était une star à l'époque et donc qui a laissé son nom à ce type de tessiture.
Ouais, c'était douloureux d'être entre plusieurs choses, de pas savoir où on était, de pas connaître le nom de sa voix.
Mais oui, parce que c'est vrai que il y a des choses de soprano que je peux chanter. En fait, tout dépend vraiment de l'écriture, de l'écriture vocale. Il y a des choses de soprano. Je peux chanter Fior di Ligi, mais je peux pas chanter Traviata. Enfin, c'est pas tout à fait la même. Mais voilà, c'est pas la même vocalité non plus. Enfin, ça dépend de tellement de choses et. Oui, c'est très désagréable de ne pas savoir où se mettre entre les deux. On a vraiment le cul entre deux chaises, comme on dit vulgairement. Mais voilà. Enfin, ça y est, je sais comment je m'appelle.
Ah ouais. Puis ça a besoin aussi pour le milieu musical, pour le milieu de l'opéra, pour les professionnels de l'opéra qui ont besoin de savoir aussi quand ils vont vous engager. Enfin,
exactement.
Pour avoir quelque chose d'un peu clair, c'est ça aussi.
Exactement. Oui, oui. Voilà.
Ce disque, la vision, disais-je, en effet, enfin, vous nous racontiez, mais c'est pas en effet, on dit femmes parce qu'ils sont dans des situations tout à fait extrêmes. Donc, du coup, elles voient plein de choses qui n'existent pas toujours. Elles sont souvent assez désespérées. Assez désespéré. Finalement, vous continuez le grand parcours des tragédiennes, comme si finalement de Lully, de Rameau, de tout cela que vous avez pu chanter en tragique, ça se poursuivait au 19e siècle.
Mais oui, parce qu'en fait, les femmes ont toujours des destins tragiques à l'opéra, hein. Vraiment, ça traverse les siècles. Et oui, c'était vraiment l'idée, c'était de continuer cette fameuse série de tragédiennes qu'on avait tellement aimée avec Christophe Rousset. Mais pour des questions d'instrumentarium et pour tout un tas de raisons économiques aussi, il a fallu passer avec un orchestre moderne, en l'occurrence l'orchestre de la radio de Munich, qui est un orchestre constitué, comme il y a 3-5 trombones, il y a 2 harpes, enfin voilà, c'était...
On peut tout faire, là.
On peut tout faire avec ce genre d'orchestre, voilà. C'est parce que plus on avance dans ce 19e, plus les orchestres sont lourds, sont larges, plus il y a... L'instrumentarium est varié et grossissant de plus en plus, donc C'était compliqué avec les talents lyriques, malheureusement, mais voilà.
Sorte de tragédienne 4, donc, qui vous dit quelque chose de votre voix, certainement, de la manière dont elle peut évoluer travers le temps, comme ça, mais aussi sur cette musique-là, de la musique française, comme s'il y avait finalement, est-ce que vous la ressentez d'ailleurs, vous, une sorte de continuité entre toutes ces musiques?
Absolument, absolument. Et quand je chante cette musique romantique, je chante exactement de la même manière que si je chantais du Lully ou du Charpentier. Ah oui. L'importance des mots, l'importance de la déclamation, l'importance du texte, vraiment, je pense que j'ai été formée comme ça, si je puis dire, à l'école baroque où le texte est si important, mais ça me paraît évident que dans tous ces siècles de musique française, le texte est important partout, dans la mélodie française aussi, dans l'opéra français, dans l'opéra comique, dans toutes ces choses-là, il faut qu'on comprenne. Alors évidemment, en tant que soprano, même soprano falcon, quand on monte dans la tessiture, ça devient beaucoup plus difficile d'être intelligible, parce que de toute façon, c'est physiologique. Quand on chante en tant que femme, on place pas la voix au même endroit que les hommes. C'est pour ça que les hommes sont beaucoup plus intelligibles quand ça monte un peu.
C'est pas qu'ils prononcent mieux, hein.
Non, c'est une question de place de voix. C'est quoi. Ça, les femmes, on la voit placée dans la tête. Donc forcément, au-dessus du passage, ce qu'on appelle le passage, ça devient une autre voix, une voix qui est vraiment en tête. Donc forcément, c'est très difficile de se faire comprendre. Mais bon, je m'y attache beaucoup, je suis prête à... Et d'ailleurs, je crois qu'on l'entend dans ce disque, je suis prête à perdre de la beauté de la voix, de la rondeur de la voix là-haut, justement pour faire ces fameuses voyelles françaises qui sont tellement pas vocales, c'est un, c'est on, c'est e, enfin des choses qu'en italien on rencontre jamais. Ça m'est égal de perdre un peu de la rondeur de la voix, mais si c'est pour le service du texte, je suis prête à le faire. Et c'est ce que j'ai fait dans ce disque, oui.
Benjamin Godard, Les Guelfes, c'est le deuxième extrait qu'on a choisi, ça tombe bien, c'est celui que vous vouliez entendre aussi, enfin, je ne sais pas si c'est votre préféré dans le disque en tout cas, mais vous êtes un peu attaché, c'est ça ?
Oui, moi j'aime beaucoup Godard, j'ai découvert Godard, enfin comme vous, comme il y a 2 ans, je ne savais même pas que Godard existait, mais je trouve qu'il a une musique incroyable, c'est vraiment Hollywood, c'est de la musique de film, c'est tellement romantique, c'est tellement, ça dégouline de romantisme et tout, on a envie de se rouler dedans, non, j'adore cette musique, c'est magnifique.
Toujours close, non pas.
L'air de Jeanne dans Les Guelfes de Benjamin Godard, toujours Véronique Jans, l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Hervé Niquet. Et ce disque qui paraît chez Alpha, Vision, est son titre. Véronique Jans, il y a un concert à venir, on reviendra à ce disque peut-être un petit peu plus tard, mais enfin le concert il faut en causer aussi, parce que le programme m'a l'air bigrement intéressant quand même de ce concert que vous donnerez en récital. Donc ce vendredi à 20h30 à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord, vous serez avec Suzanne Manoff, alors dans Vrac si j'ose dire, du Parc, du Dubois, du Chausson, Forêt, Lalo, Offenbach, Anne, Poulenc, là aussi on va traverser le temps. Hein.
Oui,
parallèlement au programme du disque en fait d'une certaine manière.
Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'on tourne beaucoup avec Suzanne, avec nos mélodies françaises, ouais. Ensuite, comme vous savez, on avait fait ce disque Néer il y a un an, voilà, et on tourne beaucoup avec ces mélodies françaises, mais donc là comme on est dans le contexte du Palazzetto, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent, un programme un peu aux petits oignons, avec des choses assez inédites, assez inconnues aussi, avec du Varney, enfin des choses que j'avais jamais chantées avant aussi. Mais avec, on avait envie de se faire plaisir. On a rajouté du Offenbach. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de sympa, de gay, voilà.
D'un peu festif aussi.
Exactement. Parce que c'est la fin du festival.
Voilà. Ouais, du festival du Palazzetto,
voilà,
justement,
c'est
déroule
le dernier
à Paris.
Concert, je crois.
Oui. D'accord. Donc, ça sera le feu d'artifice terminal. donc là-dedans, des choses à découvrir, bien évidemment, hein, des choses mieux connues. Donc, on en aura à peu près pour tous les goûts. Véronique Jans, je voulais qu'on dise deux mots, peut-être. De la Reine de Chypre qu'on a pu voir il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, dirigé par Hervé Niquet, qui a été un spectacle un peu problématique. Et vous me disiez tout à l'heure, vous étiez un peu déconfite parce que les réactions sur Facebook et partout sont pas à la mesure de la chose et souvent un peu ignorantes de ce qu'il a pu se passer. Faut redire que l'opéra, même quand c'est en version concert, c'est parfois compliqué parce que les chanteurs, oui, ça peut être malade et que ça entraîne beaucoup de choses.
Oui, surtout quand on fait une Reine de Chypre de Halévy que personne ne connaît, personne n'a jamais chanté. Quand on a un Requiem de Mozart, c'est facile de remplacer le ténor, mais quand c'est la Reine de Chypre de Halévy, c'est plus compliqué parce qu'aucun ténor connaît cette partie. Donc on avait un premier ténor qui est tombé malade, Marc Lao, on en a eu un second, Cyril Dubois, qui est aussi tombé malade, et donc on en a eu un troisième qui est arrivé le matin du concert. Il a eu la partition, le pauvre, le matin du concert, et il a tellement travaillé pendant la journée que le soir, quand le concert est arrivé, il a perdu sa voix dans le cours du concert. Donc voilà, je comprends que les gens étaient... déçus, je pense que c'est surtout de la déception. En tout cas, nous, on était vraiment évidemment très déçus. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce concert, qu'on prépare cette œuvre, cette Reine de Chypre. Et c'était vraiment, moi, j'étais déçue de voir ce pauvre ténor, c'était Sébastien Droit qui perdait sa voix petit à petit. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les gens étaient pas contents. Effectivement, est-ce qu'on aurait dû annuler le concert? J'en sais rien. C'est pas, de toute façon, c'est pas de mon fait et c'est pas moi qui décide ce genre de choses. Mais je voulais juste dire que tout le monde était très déçu dans cette histoire. Et que c'est la faute de personne. Voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, quand c'est quelque chose qui est connu, c'est facile de remplacer le chanteur, quoique. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment très compliqué. Et on a vraiment tous fait ce qu'on a pu. Hervé Niquet, le premier, il a dépensé beaucoup d'énergie à essayer de sauver tout ce qui pouvait l'être. Et voilà, une grosse déception au bout du compte. Mais voilà, le disque viendra, je ne sais pas exactement quand il va sortir, mais on a enregistré tout ça. Donc on
rend un peu justice à la chose aussi.
Exactement.
Et vous savez que c'est un projet qui remonte après quelques temps. On ne se représente pas toujours. Enfin, le public et parfois les critiques aussi ont l'impression qu'on les insulte, quand le spectacle n'est pas assez bien. Mais en fait, ça représente du boulot derrière, beaucoup d'investissement, parce que le rôle que vous chantiez, la Reine de Chypre, il faut quand même l'apprendre là aussi.
Oui. Mais c'est vraiment quelque chose qui est... On n'imagine pas le travail de recherche qui a été fait déjà, le travail d'édition, ensuite il a fallu, bon, il y avait une édition qui existait déjà, mais l'adapter, en plus il faut faire les parties séparées, distribuer les partitions aux chanteurs, c'est énorme, c'est un travail en amont et qui est énorme, et pour nous aussi, les chanteurs, d'apprendre toute cette musique, évidemment ça se fait pas en 2 minutes, hein, ça prend du temps, et on a tous envie de le faire bien, et on est tous poussés par cette énergie du Palazzetto Bruzane pour redécouvrir cette musique, la faire revivre, voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, mais...
Il y a tellement de belles choses par ailleurs, après tout.
Exactement, et c'est une sorte de fatalité, on ne peut rien faire, voilà, on est tous très déçus. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut dire le plus. Ouais.
Parce qu'Alexandre Radvicki fait Palazzetto Bruzane, j'ai l'impression que ça ressemble un peu quand même à ce qui s'est fait il y a 30 ans en arrière avec le mouvement baroque. En tout cas, lui, je crois, est dans cette idée-là, de dire on a un répertoire qu'on ne connaît pas, il faut le mettre à l'avant.
Absolument.
Tout n'est peut-être pas machin, mais il y a des choses qui sont aussi des chefs-d'œuvre là-dedans. Il faut au moins les faire connaître et faire ce travail-là.
Oui. Et je faisais partie du voyage aussi avec le centre de musique baroque à l'époque, puisque j'étais une jeune chanteuse à à l'époque et je commençais à travailler beaucoup dans ce milieu. Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'énergie aussi, exactement la même qu'on retrouve maintenant avec le Palazzetto, pour ressortir toute cette musique, toutes ces choses qui dormaient dans des bibliothèques. Là, c'était très poussiéreux pour les coups, puisque c'était...
des bibliothèques d'il y a 3 siècles.
Voilà, exactement. Mais moi, ça, je trouve ça passionnant de ressortir toute cette musique. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, en fait, quand on travaille chacun de son côté et que tout d'un coup, on se retrouve tous ensemble. C'est vraiment formidable. Moi, ça me plaît beaucoup.
On va écouter ici Proserpine. Personne ne connaît non plus, enfin, sauf vous.
Ah, si,
Richard.
Si, maintenant, je connais. Ah, si,
je connaissais bien, pardon. Enfin, pas moi, en tout cas. À peine avant qu'arrive ce disque, donc, Proserpine de Camille Saint-Saëns, qui fait partie aussi des découvertes du Palazzetto et qui vient tout juste d'être enregistré. Et c'est vous, Véronique Jans, qui chantez le rôle-titre.
Sous ta main, mais sois très prompte. Il faut dépêcher ses besognes.
Un extrait de Proserpine de Camille Saint-Saëns, chanté par Véronique Jans. On entendait juste quelques mots d'Andrew Foster Williams à la fin, et c'était à nouveau l'orchestre de la radio de Munich qui était dirigé ici par Ulf Schirmer sur un disque qui est paru lui aussi dans la collection du Palazzetto, Brusan, édition Singulares, c'est leur nom. Bien évidemment, Véronique Jans, très belle musique là encore, très chromatique, un peu wagnérienne sur les bords.
Ah,
Saint-Saëns
oui,
tenait particulièrement à ce côté-là de son opéra, je crois. On précisera quand même que Proserpine, c'est pas la déesse des enfers. Hein.
Non. Pas du tout, c'est une courtisane qui a des amours malheureux. Évidemment, elle aime celui qui ne l'aime pas. Elle en amène. Enfin bon, c'est très compliqué comme d'habitude. Et sur un fond de très politique aussi. Non, rien à voir avec les enfers. Rien. On n'est pas du tout là. Pas du tout.
On n'est pas dans ce monde-là, mais dans un beau monde, quand même, avec une très très belle musique là aussi. Hein.
Très belle musique, tout à fait.
Je salue deux invités qui nous ont rejoints tout juste à 22h25. François Joubert-Caillé, bonsoir à vous.
Bonsoir Lionel.
Et Noël Bourque, bonsoir à vous. Rapprochez-vous bien de votre micro, parce que si vous êtes à parler à 50 cm, on n'entendra pas ce que vous avez à nous raconter. François Joubert-Caillé, lui, vient de nous donner le premier livre des pièces pour viol de gambe de Marin Marais. Dites-moi, vous êtes lancé dans une intégrale, c'est ça, François?
Et oui, tout à fait.
C'est comme gonflé, ça, aujourd'hui, parce que rien que le premier volume, c'est déjà 4 disques. Hein.
Exactement. C'est une idée du label Richard Carr pour lequel j'enregistre. Moi, à la base, je voulais faire juste un disque, Marin Marais. Et Jérôme Lejeune, le directeur du label, a trouvé plus intéressant de faire une intégrale.
C'est un fou, Jérôme Lejeune. Hein. Vous lui proposez des entreprises impossibles. Voilà. Enfin, si vous ne lui proposez pas, c'est lui qui vous les propose.
Alors, il faut savoir que l'intégralité des pièces de viol de Marin Marais, ça représente une vingtaine de disques. Ouais. C'est autour de 600 pièces. Donc, quand il m'a proposé ça, j'ai cru d'abord qu'il plaisantait. Et après, j'ai vu qu'il était très sérieux. Et donc, voilà, on s'est lancé dans cette entreprise un peu folle. Il y a maintenant 3 ans, 2014. Mmh. On a commencé à enregistrer donc le premier livre. Et voilà, il vient enfin de sortir. C'est un beau symbole pour moi, parce que c'est une très très belle aventure avec Jérôme Lejeune, mais aussi avec les musiciens qui m'accompagnent. Mmh. Et c'est une musique extraordinaire, qu'on a l'impression de connaître, parce qu'on connaît les tubes de Marin Marais, le badinage, les voix humaines, etc. Et en fait, quand on joue tout de Marin Marais, on se rend compte qu'en fait, on ne le connaît pas.
Ah oui. C'est une musique qui est extraordinairement vocale, bien évidemment. L'inspiration de l'opéra est vraiment pas loin. Et on faut rappeler que Marin Marais a participé à l'orchestre qui a donné à peu près toutes les tragédies lyriques de Lully. Hein.
Il était dans l'orchestre. Il était assistant de Lully.
C'est ça.
C'était un de ses maîtres. Ses deux grands maîtres, c'était Jean-Baptiste Lully et Jean de Sainte-Colombe. Et il a clairement fait le lien entre ces deux maîtres-là, avec la vocalité de l'un et l'art de jouer la viole, de toucher la viole de gambe de Jean de Sainte-Colombe.
Ouais. Véronique Jans, c'est loin de vous maintenant le monde baroque, ou ça reste quand même un petit peu là, au moins dans le cœur?
Ça reste complètement dans mon cœur. C'est vrai que j'ai tellement chanté cette musique et je l'ai tellement aimée. Maintenant, ma voix a changé et c'est vrai que je me sens plus confortable dans un répertoire plus tardif. Mais la musique baroque, et quand je vous vois parler, je vous entends parler de la viole de gambe. Oui, c'est tellement un bel instrument, la viole de gambe. C'est vraiment, c'est comme une voix, quoi. Une viole de gambe, elle chante, c'est vraiment comme une voix. J'ai toujours ressenti ça très fort.
Ouais. Vous prends justement des instrumentistes quand vous faisiez, je sais pas, des duos, des quoi, les récitatifs, les machins comme ça. Enfin, il y a cette proximité entre l'instrument et la voix qui se fait vraiment.
Ah oui, tout à fait. Oui, effectivement, dans un récitatif, la viole de gambe est vraiment... on est pendu l'un à l'autre, si je puis dire. Enfin,
bien sûr. Nous, quand on accompagne un opéra ou un récit, même dans une cantate, on essaie toujours de coller au mieux à la voix, d'avoir des couleurs qui se rapprochent le plus de celles du chanteur.
Et de respirer ensemble.
Exactement, d'avoir les mêmes inflexions.
Mm-hmm. Et c'est ça, c'est une question d'inflexion, surtout la même manière dont on parle, en fait, la musique.
Oui, tout à fait.
Ouais. On va écouter un extrait de votre disque, tiens, François Joubert-Caillé, cet extrait de je ne sais plus quoi, si c'est le premier livre, moi je ne sais plus à quel endroit, je dirai juste après.
Thank you.
La gigue de la suite en ré mineur à deux viols, du premier livre des pièces à une et deux viols, de Maramaré, c'est toujours des annonces à tiroir chez lui. Hein. Ça date de 1686, le disque lui il est paru il y a quelques jours, tout juste avec François Joubert Caillé à la basse de viol. Et l'ensemble Aquéron, je vais nommer au moins une fois les musiciens qui sont à vos comptés, Andreas Linos, Miguel Henry, Vincent Flukiger, Philippe Grivard, avec eux vous avez été réunis, mais alors c'est un petit peu dingue parce que vous êtes quasiment rentré au monastère, j'exagère, mais enfin presque, hein, pour enregistrer ce disque, hein, François.
C'est vrai que c'est une aventure qui est assez particulière, dans le sens où pour un disque comme celui-là, enfin pour un coffret comme celui-là, oui, c'est 4h30 de musique. Donc on a fait ça en deux fois, en deux sessions d'enregistrement de deux semaines chacune. Donc pendant deux semaines, on était dans une petite chapelle perdue dans le Minervois, entre Narbonne et Carcassonne.
Le Minervois, c'est chez Jérôme Lejeune, le patron du label Richard Carr.
Exactement.
C'est ça, hein.
On était dans cette chapelle là en haut d'une colline, entourée de vignes, ouais, et deux, trois musiciens avec Jérôme Lejeune, et on était en immersion totale. Il y a très peu de réseau téléphonique, donc ouais, pour dire un peu à quel point on était coupé du monde, et puis enregistrer 7 heures par jour du Maramaré. Ouais. Et donc c'était très émouvant aussi, parce qu'au bout d'un moment, on enregistre, on ne parle même plus, on laisse faire la musique, et on est transporté aussi par toute cette musique, par Maramaré aussi. Ouais. Et c'est une aventure humaine aussi qui est vraiment très 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 belle.
Ça fait rêver, ce genre de conditions d'enregistrement,
ah
ou
oui,
ça fait peur? Ah oui, non, Véronique,
oui. Complètement. Pas de bruit, juste des vignes autour, c'est formidable. Oui. C'est vraiment. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites, quoi. Cette espèce d'immersion, quoi. On fait que ça, et on mange, on dort, on joue, on mange, on dort, on joue.
Exactement.
Et on rentre dans une espèce de rythme. Ouais. Et on est très productif, et on a beaucoup de plaisir, et on a envie que ça s'arrête jamais, en fait, je crois.
Tout à fait.
Un musicien, c'est quelqu'un qui fait pour faire de la musique, hein. Enfin, un chanteur, une chanteuse, c'est quelqu'un qui fait pour chanter. C'est bête de dire ça, mais quand on fait son métier.
On est juste heureux.
On est juste bien, c'est
je
ça.
Je crois, oui, oui.
Ouais, tout à fait. Et quand le cadre est beau, comme celui-là, là, on est dans une chapelle avec des fresques autour de nous. Enfin, c'est un cadre magnifique. Jérôme Lejeune est un cuisinier exceptionnel.
Ça aide aussi.
Bien sûr. Le vin du Minervois aide énormément aussi.
Parce qu'il a des vignes à lui, en plus, je crois, non?
Non, il a des amis vignerons.
Ah, c'est ça, d'accord. je savais qu'il y avait quelques bonnes bouteilles. Et ça aide toujours, en effet. Mais les bouteilles, c'est après, à la fin de la séance d'enregistrement, bien sûr, bien évidemment. Me dit-il d'un air particulièrement sérieux. Vous évoquiez tout à l'heure la personnalité, bien évidemment, de Maramaré, que vous enregistrez ici, mais de Sainte-Colombe aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'à votre avis, on a exagéré l'espèce de rapport maître à disciple complètement dingue qu'il y a eu entre les deux, dont on sait que ça donnait un film célèbre, et très beau par certains aspects d'ailleurs. Vous le voyez comment, ce rapport-là, vous?
Tous les matins du monde, pour parler
sûr.
Du film,
c'est
pas un film documentaire, c'est un film, c'est-à-dire que c'est une fiction historique. Donc il y a des choses qui sont véritables d'un point de vue musicologique, il y a des choses qui sont inventées. Donc il y aurait beaucoup de choses à redire, mais ça je laisserai des musicologues le faire. Je pense qu'il y a des choses qui ont été romanisé,
ouais. Mais romantisé,
pardon.
Romanisé aussi, remarqué du romantisme.
Donc voilà, moi c'est un film que je regarde avec un petit peu de distance, bien évidemment. Après, c'est sûr que Sainte-Colombe, on connaît très très peu de choses de lui, donc on peut imaginer beaucoup de choses aussi. Ça, on a cette liberté là. Maramaré, on connaît plus de choses de lui, mais après sur sa personnalité, sur son rapport avec son maître, avec ses maîtres, on parlait de Lully tout à l'heure. Bien évidemment, c'est plus difficile aussi.
Et oui. On peut évoquer aussi, puisqu'on parle de tous les matins du monde, la personnalité de Jordi Savall, qui est un peu fondamentale dans cette musique-là. C'est quelqu'un pour lequel vous avez eu une oreille, un lien, je ne sais pas.
Alors, moi, comme tout, quand j'étais étudiant, j'écoutais beaucoup, bien évidemment, tous les enregistrements de viol de gambe, dont ceux de Jordi Savall, qui m'ont marqué. C'est une figure marquante de la musique ancienne, et bien évidemment, plus particulièrement de la viol de gambe et du consort de viol aussi. Après, moi, ça fait un certain nombre d'années que je n'écoute plus Jordi Savall, ni d'ailleurs aucun autre violiste, pour essayer de trouver ma manière d'interpréter ce répertoire-là. Et c'est vrai qu'on compare toujours mais dans toutes les critiques, on parle toujours de Jordi Savall et de ses disques à lui. J'avoue que j'ai oublié à quoi ressemblent ses disques. C'est-à-dire que je suis tellement dans ma recherche de la plus belle interprétation de Maramaré que j'en ai oublié les interprètes actuels.
Ah ouais, et qu'il vaut mieux peut-être les oublier. Enfin, moi, que ce soit du mépris, vous ne trouvez pas méprisant?
Pas du tout,
Véronique.
Au contraire.
Non. Mais je comprends très bien ce que vous dites, parce que moi, quand je chante toute cette musique dont on parlait tout à l'heure, de cette romantique française 19e, on n'a aucune... On ne peut faire aucune comparaison, on n'a aucun enregistrement. Donc voilà, j'essaye de trouver aussi, avec ma voix, avec mon identité, quelque chose pour cette musique. Mais c'est une à la différence de vous, c'est une liberté absolument formidable, parce qu'il n'y a aucune référence. Donc on fait comme on a envie, quoi, tout simplement, et c'est génial.
Et c'est mieux.
C'est vrai que pour nous, moi je m'en suis rendu compte dès le début de ce projet, dès que je commençais à interpréter, que je commençais à travailler une pièce de Marin Marais, je sentais que j'étais influencé par Jordi, mais aussi par d'autres violistes. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Tiens, ça, on le joue comme ça, pourquoi? Et au bout d'un moment, je me dis, non, je vais essayer de faire table rase et de me demander véritablement pourquoi une sarabande, on la fait toujours à ce tempo-là, pourquoi ceci, cela. Enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait pris énormément d'habitudes en tant que violiste, des codes stylistiques, des codes instrumentaux dont il fallait se laver, entre guillemets, pour essayer de retrouver Marin Marais, parce que c'est lui qui m'intéresse. C'est rien d'autre, c'est sa musique qui m'intéresse. Et pour ça, il faut faire table rase d'une certaine manière.
On va écouter un nouvel extrait de ce disque, ici la suite en sol mineur et une sarabande. La sarabande de la suite en sol mineur pour basse de viol, Les Clavecins de Marin Marais, extrait de son premier livre des pièces de viol. Ça vient de paraître, je vous le rappelle, chez Richard K. En coffret de 4 disques par François Joubert-Caillet et ses compères de la Kérong, après avoir passé des semaines autour de Marin Marais dans le Minervois, vont y retourner pour enregistrer le deuxième livre.
Alors, le deuxième livre, déjà, on a presque fini de l'enregistrer. D'accord. Et là, on va commencer le troisième livre en septembre prochain.
Et fin du parcours des 5 livres, c'est quand?
Alors,
ça
au niveau niveau, pour le public, en tout cas, la parution imaginée, ce serait 2022 ou 2023.
2022, ah oui, c'est pas rien, voilà. C'est des trucs à long terme comme ça.
Ouais.
C'est pas mal. Le prochain concert de l'Aquéron, ce sera le 28 septembre. C'est un peu loin, mais on peut déjà réserver la date. Mm-hmm. Prochain grand concert parisien à l'Auditorium du Louvre, où vous jouerez quoi? Du Maramaré avec
Tout à fait, c'est le programme du disque qui est paru l'année dernière, des pièces favorites. C'est une sorte d'anthologie. Des pièces les plus connues de Maramaré.
Guise d'introduction finalement à l'intégrale. Hein. Et puis on signalera, vous avez deux merveilleuses récompenses, le choc de Classica et le diapason d'or en même temps, ce qui fait toujours plaisir, surtout pour des choses aussi...
C'est très encourageant.
Enfin compliqué, c'est pas que c'est compliqué, Maramaré, mais quatre disques d'un coup comme ça.
Non, mais je trouve que c'est un beau signal aussi qu'un projet un peu original soit récompensé de la sorte. C'est très très encourageant.
Vous avez le choc aussi, hein, c'est ça hein,
Ouais.
Ouais, d'abord.
Non, mais ça fait plaisir, évidemment,
bah oui,
ça
toujours.
Fait plaisir.
Bah oui, oui.
Je suis pas sûre que ça changera quelque chose, que ça se vendra plus. Enfin, en tout cas, c'est encourageant. C'est tout à fait le mot.
Bah oui, c'est toujours bien quand des choses comme ça. Très bien. Le dernier disque, donc, coffret de François Joubert Caillé, je vous le redis, c'est Chéri Tcherka.
Lionel Esparza, Classic Club, France Musique.
Notre troisième et dernier invité, je vous le présente, Véronique Jans, Noël Burke, qui vient de sortir un livre chez Symétrie intitulé Eugène Scribe ou le Ginolâtre. Mais avant de parler de ce disque-là, et de ce livre-là, pardon, et surtout de son sujet de Eugène Scribe, je voulais, Noël, peut-être, parce que c'est quand même votre domaine, là, ce dont on vient de parler avec Véronique Jans en début d'émission, en particulier la musique du 19e siècle, dont Scribe fut l'un des personnages à la fois central et aujourd'hui méconnu. Est-ce que quelque chose de ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, Véronique, vous a, je ne sais pas, fait friser l'oreille, interpellé ou vous êtes questionné d'une manière ou d'une autre?
Non, plus exactement, j'ai trouvé sur Internet un entretien que vous avez donné où vous dites, en gros caractère, pourquoi est-ce que quand on veut distribuer un rôle dans l'opéra français, on fait appel à des Coréennes ou à des Russes, n'est-ce pas? Enfin, c'est plus des Russes, mais des Coréennes en tout cas. Effectivement, c'est quelque chose qui m'indigne depuis des années, n'est-ce pas? Et je crois vaguement savoir pourquoi, mais quelle est votre explication de ce phénomène?
Moi, je tire le rideau sur ce... Ça a été toute une polémique, ça a été toute une histoire. En fait, ça a été... Voilà, c'est vrai que quand on veut jouer du Wagner ou quand on veut jouer du Strauss, on fait en général appel à des musiciens, des chanteurs allemands parce qu'on estime que ils sont les seuls qui maîtrisent bien la langue, ce qui n'est pas faux. Ouais. Mais quand on fait du répertoire français, on appelle un peu n'importe qui. Enfin, n'importe qui, c'est pas ça que je veux dire. Mais pas forcément des Français. Et c'est contre ça que je m'indigne, comme vous dites. Et voilà. Et ça a été mal compris. Donc voilà. Moi, je parle plus de ça. Je dis seulement que...
C'est mieux chatouilleux, l'art lyrique, hein. Fait le manque
oui,
de l'art
oui,
lyrique,
oui, c'est vrai. Il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est comme pour la politique, c'est comme un peu comme maintenant, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le sens du poil, on est mal compris ou on est mal interprété. Je dis seulement que ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est primordial d'être compris dans cette musique et que le texte est très important. Donc voilà, si on met des Coréens en l'occurrence ou des Russes ou je ne sais pas quoi, qui sont mal préparés ou pas préparés, on perd beaucoup du texte et je trouve ça très dommage. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
Oui, bien sûr, mais enfin, il y a une raison quand même qui est le mépris généralisé, et particulièrement en France, du répertoire français. C'est ça le fond du problème, n'est-ce pas? On se dit, bon, on va avoir Jesse Norman, n'est-ce pas, là, comme ça, Pénélope, n'est-ce pas, ça va passer. Bon, mais je m'excuse, je vais dire des grossièretés. Mais c'est absolument, c'est stupide, et en même temps, c'est hélas symptomatique du statut du répertoire français dans le monde et d'abord en France, il faut bien le dire. Alors qu'il y a depuis quelques années une génération de chanteuses notamment et des dames aussi remarquables formées ici et qui chantent admirablement le répertoire français.
Mais il y a peut-être une raison aussi, c'est peut-être le symptôme d'autre chose, c'est que pour nous l'opéra c'est avant tout du chant. Alors que vous, avec votre livre sur Scribe, vous nous dites une chose, c'est qu'au 19e, enfin vous nous le rappelez, c'était le livret qui était central dans la première partie du 19e siècle, avant le nom du compositeur sur l'affiche, il y avait celui du librettiste qui se couvait être Eugène Scribe assez souvent d'ailleurs.
Absolument. Et ce que j'ai voulu retrouver en écrivant ce livre sur les livrets de Scribe est l'attitude qu'on avait à cette époque-là vis-à-vis de ces veuve de théâtre lyrique. Pour moi, cette expression est absolument fondamentale pour comprendre la spécificité de l'opéra français.
Parce c'est pas que du théâtre, c'est pas de l'opéra, vous dites bien théâtre
c'est
lyrique.
C'est du théâtre lyrique. C'est les deux. Et pour moi, je suis pas un musicologue, j'ai cette information musicale, mais elle n'a aucun rapport avec ça. J'ai abordé les opéras écrits par Scribe, et il faut pas oublier qu'il a écrit la plupart des grands opéras, le grand opéra, de son époque, 90%, un truc comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est lui. Et à l'époque, n'est-ce pas, effectivement, vous avez dit, n'est-ce pas, on met le nom de l'auteur du livret avant le nom du compositeur, et d'ailleurs, à l'opéra comique, n'est-ce pas, où c'était géré par les acteurs, les comédiens, etc., on soumettait un livret, et puis on décidait, si on l'acceptait, on décidait qui allait composer la musique.
Après.
N'est-ce pas? C'est vraiment une autre conception des choses. Ouais. Et je trouve cela extrêmement significatif de toute une tradition qui est détestée par les amateurs de la voix. Je suis tombé sur plusieurs bouquins où on crache sur l'importance de la parole dans l'opéra français, n'est-ce pas?
Alors qu'elle est centrale.
Elle a été historiquement, n'est-ce pas? C'est un point de vue d'aujourd'hui. C'est un point de vue moderniste, c'est un point de vue esthétisant, disons, n'est-ce pas?
Ouais. On va écouter un extrait des Diamants de la Couronne. C'est un extrait que vous nous apportez, justement, Noël Burke.
Oui,
c'est
mais
bien
je
ça.
Voudrais le présenter parce que
c'est rapidement,
on
allez-y.
Que dalle, hein. Le Diamant de la Couronne est un opéra comique, donc, de Scribe. Pour moi, c'est un de ses plus beaux livrets, qui date de 43, et qui met en scène un noble portugais qui tombe sur une bande de brigands dans la montagne noire. Et cette bande de brigands est dirigée par une belle femme, Catherine. Et il tombe évidemment immédiatement amoureux de cette femme. Et ensuite, on va les retrouver à Lisbonne, chez l'oncle de ce monsieur qui est le ministre de l'Intérieur, et où il se trouve en présence de celle qui est sa fiancée officielle. Mais ni elle, ni lui ne veulent se marier. Elle est tombée amoureuse de son meilleur ami, et lui est amoureux de la Catherine. Et donc, on va entendre une scène que j'aime beaucoup, parce que je trouve que les meilleurs moments chez Aubert, ce sont les ensembles, n'est-ce pas? Les quatuors, les duos, les trucs. Il était très, très doué pour ça. Il y a d'autres choses qu'on peut être moins aimé. Mais ce moment-là, qui est le moment où Diane le dit, on va faire une sarabande, et puis finalement ils disent non, on va pas faire ça, allons parler. Et ils essaient de parler de leur perte de goût, n'est-ce pas, l'un pour l'autre, mais ils ont du mal. Alors écoutons là, je crois qu'on comprend assez bien ce qui est dit.
On peut résigner et danser.
Quoi? Vous pourriez?
Adieu monsieur, adieu señora, je reviens. Savez-vous, mon cousin, un fait bien étonnant, nous n'avons pas encore dansé de la soirée.
J'y pensais et j'allais vous inviter.
Vraiment?
De tant d'adorateurs, vous étiez entourés, qu'on n'osait vous approcher.
Je suis prête. J'entends commencer une sarabande. Partons.
C'est ma cousine, une faveur bien grande.
C'est pour moi, mon cousin, un plaisir des plus grands.
Ah si j'osais, à nous décourager du cœur près de cousine,
nous
la frayeur. Oui, de la franchise,
ainsi
pourquoi tomber. Il faut tout dire,
allons, il faut parler.
Vous tenez donc beaucoup à cette sarabande.
Et vous, mon cher cousin?
Moi, je vous le demande.
Pas beaucoup.
Moi non plus.
et puis j'aurai, je crois, à vous parler.
C'est comme moi.
Eh bien, nous voilà seuls.
C'est rare.
Et j'ai l'idée qu'au lieu d'aller danser, peut-être il vaudrait mieux rester.
Et voilà décidé.
Et causer.
Et causons donc.
Allons-y pour arrêter ta prête.
Si tu n'as pas
frayeur, ils ne la franchissent pas. Si, pourquoi trembler? Il faut te dire,
allons-y pour parler.
Ils ne la franchissent pas. Si, pourquoi trembler?
Il faut tout aller. Allons, il faut parler.
Il faut tout dire,
allons, il faut parler.
Eh bien, dites, je vous écoute.
Dites vous-même.
Il est bien naturel que vous commenciez le premier.
Sans doute. Je vous adore.
Au ciel.
C'est-à-dire, je vous aime de tout mon cœur.
Moi de même.
Mais voyez-vous, je me dis à moi-même qu'il faut d'abord.
C'est aussi mon avis.
Par la franchise, il faut qu'on brille.
C'est juste.
Eh bien,
eh bien,
eh bien,
eh bien.
Même nous.
Oh Dieu, que c'est gênant. On ne peut un instant s'expliquer en famille.
Ah, si, je
allons les courage
et du parfait.
Nous vous
étouffons.
Voix de Mylène Mornay et Christophe Henoch dans cet extrait des Diamants de la Couronne d'Aubert pour la musique, mais c'est pas lui qui nous intéresse ce soir, vous l'aurez compris. C'est le librettiste Eugène Scribe ou le Ginolâtre. Voici pour le titre du livre que vous lui consacrez, Noël Burke, aux éditions Symétrie. Alors, vous m'expliquez quand même l'histoire du Ginolâtre parce que vous défendez en fait l'idée dans ce livre-là que Eugène Scribe n'est pas quelqu'un qui est finalement tellement dans l'esprit de son temps une sorte de patriarcat très dominant et qu'au contraire, il insinue dans l'opéra quelque chose comme un statut de la femme un peu différent, c'est ça ?
Oui, Scribe est un homme qui a été élevé par des femmes, enfin une femme, qui avait divorcé de son mari lorsqu'il était très très jeune. Et moi, dans mon expérience, j'ai constaté que les hommes qui n'ont pas connu leur père ont beaucoup plus de possibilité de comprendre la position des femmes et le rôle et les rapports de pouvoir sous le patriarcat. C'est le cas de Scribe. J'ai été étonné de découvrir ça, je dois dire, et c'est particulièrement prégnant dans ses livrets. Ses pièces aussi, on manifeste parfois, mais c'est plutôt dans ses livrets d'opéra et d'opéra comique que il y a une extraordinaire sensibilité, d'une part à l'oppression des femmes et aussi au travers masculin, n'est-ce pas? Scribe voit dans les hommes des obsessionnels, c'est très très frappant, n'est-ce pas? Tous ces opéras comiques, comme ces grands opéras, enfin ceux que je connais, et c'est quand même un petit nombre, ont cette caractéristique. C'est ce qui m'a absolument fasciné. Il faut quand même dire que je viens du cinéma, n'est-ce pas? Tous mes travaux ont été d'abord portés sur le cinéma. Et en fait, en abordant l'opéra, que j'adore depuis très longtemps, mais que j'adorais dans une optique moderniste et formaliste, moi, j'étais comme Boulez, n'est-ce pas? Je pensais que le livret de Parsifal était prétexte à musique. longtemps que j'ai pensé ça, et même mon premier bouquin sur le cinéma était tiré de cette idée-là. Le scénario, c'est un prétexte à un découpage, un montage, à tous les paramètres formels du cinéma. Et donc, quand j'ai viré mon cutie sur cette question-là, grâce surtout, il faut le dire, à Catherine Clément, c'est son bouquin sur la parole, le fait des femmes, qui m'a mis sur la piste, parce que, analysant comme elle l'a fait, la misogynie du cinéma, de l'opéra italien et allemand, elle fait une exception pour l'opéra français. Elle dit quand même, Carmen choisit ses amants et Mélisande, elle répond pas aux questions des hommes. Et puis je dis, tiens, il y a peut-être quelque chose là.
Ah oui, il a creusé là.
Et je me suis plongé dans le cinéma, dans l'opéra français, pour tout l'opéra français, depuis 1850. Et ben voilà, c'est arrivé à Scribe et je me suis aperçu que c'est lui, avec Massenet peut-être, qui incarne ce principe-là.
Eugène Scribe ou le Ginolâtre, c'est donc ce livre, Noël Burke, qui paraît aux éditions Symétrie. On rappellera quand même, parce que ça je ne l'ai pas dit encore, mais c'est quand même fondamental, quand je dis qu'il a écrit les livrets de tous les grands opéras français du 19e siècle, on peut citer les Muettes du Portici, les Huguenots, le prophète Robert le Diable, tous ceux qui connaissent ça le savent par cœur, mais peut-être pas tout le monde non plus. On va refermer cette émission avec un extrait de votre disque à vous, François Joubert Caillé, une toute petite gigue pour se dire au revoir avant d'aller se mettre au lit, hein, dans les bras de Maramaré, bien sûr. La gigue de cette suite en ré majeur de Maramaré, extrait de son premier livre, toujours par François Joubert Caillé. Et les membres de l'Aquéron, je vous rappelle que ce disque vient de paraître sur le label Richard Carr, quant à celui de Véronique Jans, sous le titre Vision. C'est sur le label Alpha, vous savez tout. Nous étions ce soir avec Maud Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Gérard Cognier et Alexandre Martin.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain jeudi sous le titre Les extravagances de l'amour. Nous serons avec Raphaël Pichon et Alain Duhaut.
J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux. Des mots d'adieu.
Il nous a fait tout à l'heure la visite. Il nous fait à 23h le portrait contemporain comme il se doit. C'est Arnaud Merlin.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.